Salut, c'est La Poulie.
Yeah, yeah.
Votre revue de presse hebdomadaire. Alors, cette semaine, on parle. Moi, je vais vous parler de la police qui utilise des logiciels de reconnaissance faciale.
Moi, je vous parlerai de nouvelles réglementations concernant l'ouverture de mines.
Moi, je vous parlerai après du salon Milipol, qui est le salon des armes pour le maintien de l'ordre.
Et si on a le temps, un article sur les vautours qui survolent l'Ukraine.
Ok, et bon, il y a d'autres trucs, mais comme on n'a jamais le temps, je les annonce pas, on verra au fur et à mesure. Ok, et puis il y a un petit agenda, mais alors j'ai perdu pas le jingle là. Mais...
Ah, je peux vous le faire.
Attends, non, mais... Voilà.
Allô ?
Qu'est-ce que cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Eh ben pour commencer, jeudi à une journée avec les cordistes, le collectif des cordistes en colère, cordistes solidaires. Alors ils nous donnent rendez-vous déjà devant le tribunal de Reims à 8h30, de 8h30 à 11h, un rassemblement de soutien. Suite à l'accident d'Arthur et Vincent, voilà, qui étaient deux cordistes qui
ont eu un accident dans un silo de sucre, si je ne m'abuse.
Bah, sucrerie de Bazancourt.
C'est ça.
Donc voilà. Et ensuite, si vous ne pouvez pas vous rendre au rassemblement de soutien, vous pouvez les retrouver. Ils viendront présenter leur lutte et leur nouveau bouquin qui s'appelle « Un jour, j'irai là-haut ». Et voilà, qui traite de leur métier, mais aussi de leur bataille et de la défense de leurs conditions de travail. Et ça se passera alors de 18h à 22h dans les locaux de la radio Primitive, justement.
Au 26 rue Schweitzer,
c'est ça.
À Reims.
Donc ils font une petite tournée dans le Grand Est, dans ce qu'ils appellent le Grand Nord, Paris, Lille, Reims et Amiens. Donc venez à leur rencontre jeudi, 18h, à la radio. Voilà. Et je sais pas, t'as quelque chose pour l'agenda ?
Eh ben, on avait une projection de film dans les Ardennes.
Alors, ce coup-ci, c'est le samedi 25 novembre. Il y a le show, Atomic Show. Alors, jeu de mots. Alors, show, la lutte de show dans les Ardennes.
C-H-O-O-Z.
C-H-O-O-Z, voilà. Donc ça, c'est chez Josette. Donc on vous en parle souvent. Alors il y aura la projection du film L'Explosion qui revient sur toute la bataille qui a eu lieu contre l'installation d'une centrale nucléaire et ensuite avec tous les mouvements sociaux qui se sont agrégés là-dessus. Et à 18h, il y aura... À 20h, donc ça c'est à 18h, et à 20h, il y aura un concert du groupe d'action musicale qui était présent dans la lutte de show, dans les manifestations, voilà.
Ouais.
Donc, voilà.
Avec notamment Roudoudou.
Avec Roudoudou et sa guitare. Et il y aura aussi plein d'archives présentes chez Josette, des archives sonores, des archives papier, etc. Donc, voilà. Ça peut revenir sur le passé, ça peut aussi nous encourager à lutter. Et ben c'est tout ce que j'avais dans l'agenda.
Et ben très bien. Et ben on va passer tout de suite au dur. Alors et ben là, contrairement à ce que dit le jingle, la police voit tout. Et je vous livre un article. Je vous parle d'un article de Disclose. Alors le site c'est disclose.ngo et vous allez y trouver cet article en libre accès. Et voilà, il s'intitule « La police nationale utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale ». En 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance de la société israélienne Briefcam. Depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur dissimule le recours à cet outil qui permet l'emploi de la reconnaissance faciale. Un logiciel déployé au niveau national. D'après les documents internes au ministère de l'Intérieur obtenus par Disclose, les forces de l'ordre utilisent les systèmes Briefcam depuis 2015 dans le plus grand secret. Le logiciel en question, baptisé Vidéo Synopsis, permet de traquer une personne sur un réseau de caméras grâce, par exemple, à la couleur de son pull. Il peut également suivre un véhicule à l'aide de sa plaque d'immatriculation ou examiner plusieurs heures de vidéo en quelques minutes. Il peut aussi analyser des visages. Le slogan de Briefcam, racheté par le géant de la photo Canon en 2018, transformer la vidéosurveillance en intelligence active. L'option reconnaissance faciale activable en quelques clics. La popularité de Briefcam parmi les services de la police pourrait s'expliquer par l'utilisation hors de tout cadre légal d'une de ses fonctionnalités phares, la reconnaissance faciale. Celle-ci permet de détecter, de suivre, d'extraire, de classer, de cataloguer une personne en fonction de son visage, explique l'entreprise sur son site internet. Et pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner un ou plusieurs visages avant de cliquer sur le bouton « Reconnaissance faciale » affiché à droite de la zone de lecture, comme l'indique le manuel d'utilisation transmis à Disclose par la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés sur Internet. En quelques clics, le tour est joué. Selon une source bien informée au sein de la police nationale, la reconnaissance faciale de Briefcam serait activement utilisée, sans contrôle ni réquisition judiciaire. N'importe quel policier dont le service est équipé peut demander à recourir à Briefcam en transmettant une photo ou une vidéo. En France, plus d'une centaine de villes ont équipé leur police municipale avec l'application Briefcam. Selon nos représentants en Europe, Florian Lebovici, c'est notamment le cas de Nice, Roanne, Aulnay-sous-Bois, Perpignan ou Roubaix. Les algorithmes de Briefcam scrutent également les visiteurs du parc d'attractions du Puy du Fou et bientôt les élus de l'Assemblée nationale. Une implantation qui fait de la société l'un des leaders sur le marché hexagonal. Donc voilà, comme habituellement, hein, ils font des trucs illégalement et puis ils attendent que ce soit légalisé par la suite. Hein, ce sera. D'ailleurs, il y a déjà eu une loi votée en prévision des Jeux Olympiques. Donc c'est ça va pouvoir être utilisé. En expérimentation pendant les Jeux Olympiques, et puis après ce sera légalisé comme à chaque fois, quoi. Voilà, et puis je continue parce qu'on est sur la section police là. Un article de contre-attaque, contre-attaque.net, ça c'est le site, au salon Midipol, des outils de torture repérés par Amnesty International. Du 14 au 17 novembre se tenait près de Paris le salon Midipol, événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, où tous les autocrates du monde viennent faire leur marché en visitant les stands présentant les nouvelles armes pour réprimer leur population. Une équipe d'Amnesty International s'est promenée dans le salon et a identifié des armes de maintien de l'ordre illégales ainsi que des équipements considérés comme interdits par la rapporteuse de l'ONU sur la torture. Amnesty International relève que si ces équipements sont interdits par la rapporteuse de l'ONU sur la torture, ils sont pourtant répertoriés dans les catalogues distribués à Midipol et d'autres ont été retrouvés sur les supports marketing des entreprises. Dans le catalogue promotionnel, l'ONG a identifié des matraques à pointe, des poussettes, des entraves pour jambes. Elle précise que suite à ces alertes, les organisateurs du salon ont pris des mesures nécessaires pour retirer les documents des entreprises chinoises faisant la promotion d'équipements de torture illégaux. Donc on a vu aussi des matraques à pointe et des gants à décharge électrique. Voilà. Donc voilà, de magnifiques instruments de torture dans un salon gentiment inauguré par notre ministre de l'Intérieur récemment, là, le 14, j'imagine. Allez, on s'écoute un petit peu de musique. We'll be right back. Voilà, c'était Coin Toss avec la chanson No Cure.
Et moi j'enchaîne avec un article que j'ai trouvé sur le site Ricochet au pluriel.cc. Les États européens veulent déréglementer les mines polluantes pour alimenter les industries de l'armement et de l'énergie. Voilà, ça on en parle ici régulièrement souvent, le greenwashing autour des... la délocalisation des pollutions, et là, en fait, ça traite de nouveaux accords européens, nouvelle réglementation européenne concernant l'ouverture de mines. Les États européens veulent déréglementer les mines polluantes pour alimenter les industries de l'armement et de l'énergie. Fini les éventuels obstacles écologiques ou juridiques, et un fort soutien des institutions. Détruire la biosphère pour fabriquer des armes de guerre, alimenter des gros SUV électrifiés et des usines à marchandises dispensables. Polluer beaucoup pour émettre peut-être un peu moins de CO2, émettre peut-être un peu moins de CO2 tout en détruisant toujours plus la biosphère et ses habitants. C'est le programme criminel des États européens. Décarboner les industries, la fabrication d'armes, l'énergie des SUV et les centrales énergétiques alimentant la machine de la civilisation industrielle, c'est génial. Les États européens veulent déréglementer les mines polluantes pour alimenter les industries de l'armement. Titane, lithium, l'Europe ouvre un open bar pour l'industrie minière. Plutôt que l'instrument d'une transition verte, la future législation européenne sur les matières premières critique est une offrande aux industries polluantes, dénonce Laura Vérec de l'Observatoire des multinationales. En pratique, le texte prévoit un soutien financier pour ouvrir des mines hors de l'UE, avec très peu de contraintes pour les entreprises en termes de respect de l'environnement et des populations locales. Il permet aussi d'ouvrir plus de mines en Europe à travers le principe d'intérêt stratégique supérieur, entre guillemets, c'est-à-dire en limitant les motifs d'objection juridique des populations, en reléguant les lois environnementales et démocratiques. Par conséquent, on consultera moins, plus vite, et on pourra plus difficilement remettre en cause l'ouverture d'une mine. Le processus législatif en cours est très rapide, le plus rapide de l'histoire, selon certains journalistes, et le brouillon de loi publié en mars par la Commission est aujourd'hui au stade final de discussion et compromis entre Parlement européen et le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Les deux institutions ont déjà arrêté leur position. Sous couvert de garantir la transition écologique, les conséquences de cette loi seront donc potentiellement désastreuses. Une mine est et sera toujours sale. En ouvrir une requiert de grandes quantités de terres, peut entraîner le déplacement de communautés. En France, l'ouverture de la plus grande mine de lithium est prévue pour 2028 dans l'Allier. Des organisations locales s'y opposent, déjà pour éviter la pollution de leurs terres et leurs rivières, et le secteur de la mine a été placé sous surveillance comme, entre guillemets, site avec une contestation susceptible de se radicaliser à court terme par les services du ministère de l'Intérieur. On ouvrira des mines dans le futur, à la fois pour les voitures électriques, mais aussi pour des missiles. Et deuxièmement, l'extraction de certaines mines sera aidée financièrement et politiquement pour l'industrie de la défense, comme le titane. Pour résumer, la défense et l'aéronautique ont tout fait donc pour s'assurer que les métaux qui les intéressaient bénéficieraient du même soutien public et des mêmes déréglementations environnementales que ceux qui sont réellement utiles aux transitions climatiques et numériques. Sous couvert de Green Deal et de transition verte, on met de côté les nouvelles pollutions, émissions et atteintes aux droits de l'homme à venir. Il est nécessaire d'avoir une discussion politique sur les conséquences environnementales de notre transition dite verte. Aujourd'hui, ces discussions sont trop absentes du débat public européen. La loi ne mentionne pas les questions de notre boulimie de consommation, d'une limite à notre demande en matériaux rares. Sous couvert de Green Deal et de transition verte, c'était un article que j'ai trouvé sur Ricochet. Et si vous voulez plus d'infos sur les mines françaises, vous pouvez lire un bouquin qui est sorti aux éditions de La Dernière Lettre, qui trace un peu un panorama de tout ce qui se passe, de la reprise, des tentatives de réouverture de mines, en tout cas en métropole, mais aussi en Guyane. Et ça s'appelle « Mauvaise mine ». Voilà, audition de La Dernière Lettre, on vous remettra le conseil sur la page de la poulie.
Un autre conseil lecture sur les mines, parce qu'en fait, un état minier important, c'est le Canada. Et il y a un auteur canadien qui s'appelle... ça y est, j'ai oublié. Enfin bref, il y a eu un livre écrit sur les paradis fiscaux qu'a créé le Canada. En fait, ils ont été créés... le Canada, c'est un paradis fiscaux pour toutes les sociétés minières, que les mines soient au Canada ou pas. Et je vous retrouve le titre pour après la musique. On va se mettre un peu de musique. On s'écoutait I Wanna Hurt par le groupe L'Amictal. Et le livre dont je vous parlais à l'instant, ça s'appelle Paradis fiscaux, la filière canadienne. Et l'auteur, c'est Alain Deneau. Et très intéressant. Et ça raconte vraiment comment le Canada et d'autres États ont colonisé des îles pour en faire des paradis fiscaux. En fait, bref, voilà, il faut lire ça. C'est intéressant.
On mettra sur notre page. Et maintenant, je vais vous lire un petit peu un article à propos de des entreprises européennes qui vont faire les vautours pour la reconstruction de l'Ukraine. Voilà, ça se passe à un salon qui se passe en Pologne. Et c'est un article tiré de Mediapart. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le finir, mais on vous remettra le lien. Avant même la fin de la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises se positionnent sur le marché de la reconstruction du pays, qu'elles espèrent particulièrement lucratif. Un forum international était organisé à Varsovie les 14 et 15 novembre. C'est un centre commercial, comme il en existe des milliers, affable et poli, avec une petite boîte pour ranger ses cartes. Lui travaille dans le secteur des canalisations, plus précisément les systèmes de canalisation pré-isolés pour le chauffage et le refroidissement urbain. Détaille-t-il, prospectus à l'appui. Il a imprimé le schéma en coupe d'un tuyau, sur deux feuilles plastifiées qu'il étale sous les yeux de son interlocutrice. Notre système est vraiment intéressant parce qu'il permet aussi le refroidissement, insiste-t-il. Le nom de son entreprise est brodé sur la manche gauche de sa veste. Iso Plus. Face à lui, la femme opine distraitement. Ah, je vois, d'accord. C'est un commercial comme les autres, sauf que la ville dans laquelle il aimerait emporter un contrat s'appelle Bakhmut et qu'elle n'existe plus. Ses immeubles ont été éventrés par les bombardements aériens et les frappes d'artillerie. Son sol est couvert de gravats, de sang et de poudre d'explosifs. Toute la population a fui. Les forces armées ukrainiennes ont perdu la ville lors d'une bataille considérée comme l'une des plus meurtrières du XXIe siècle. Au moment précis où le vendeur d'Iso Plus étale ses prospectifs, des soldats ukrainiens rampent dans des tranchées autour de la cité pour tenter de la reconquérir. Parfois, elles sont tuées par des drones russes qui ont repéré leur silhouette terrée. Avant de partir, le commercial encourage son interlocutrice, une représentante de la municipalité de Bakhmut, a scanné le QR code qui se trouve sur sa brochure pour retrouver facilement ses produits. La scène peut paraître absurde, elle est banale au forum Rebuild Ukraine, reconstruire l'Ukraine. Grand raout où se sont rencontrés les 14 et 15 novembre à Varsovie, vendeurs de chauffage, d'ascenseurs, de camions poubelles, architectes fans de Smart City, maire de ville ukrainienne et homme à cravate discret. Et bien peigné, travaillant dans la finance. En tout, plus de 300 entreprises venues d'une cinquantaine de pays, selon les organisateurs. Toutes et tous se sont donné la tâche de reconstruire l'Ukraine. Le pays est pourtant encore en guerre et partiellement occupé par l'armée russe. Pour la petite foule qui se presse dans les allées du centre des expositions de Varsovie, cette réalité fait figure de détails gênants, mais pas insurmontables. C'est dans la nature même des affaires de prendre des risques, entre guillemets, assure devant un parterre compact de chemises parfaitement repassées, le directeur de l'agence gouvernementale ukrainienne chargée d'attirer les investisseurs Ukraine Invest. Avant de retourner le problème façon prise de judo, en l'occurrence, il y a surtout un vrai risque que vous ratiez des opportunités en Ukraine. Et quelles opportunités ? Un rapport conjoint du gouvernement ukrainien, de la Banque mondiale, de la Commission européenne et des Nations unies estimait en mars 2023 que le coût total de la reconstruction de l'Ukraine avoisinait les 400 milliards d'euros. Un monde de vie englouti et de chez soi perdu pour les uns, un énorme gâteau à se partager aux yeux des industriels du bâtiment, des transports ou de l'énergie pour les autres. Le directeur d'Ukraine Invest, Sergueï Tsivak, affiche sur les 5 écrans géants derrière lui une carte de l'Ukraine parsemée de logos et lance au micro « Voici les entreprises qui ont investi chez nous depuis le 24 février 2022, date du début de l'invasion russe. On peut les applaudir bien fort. » La petite assemblée s'exécute. Parmi eux, le patron de la branche conseil de l'institution financière la plus puissante au monde, BlackRock. Son PDG, Larry Fink, a déclaré, après une année de guerre en Ukraine, « Ceux qui croient vraiment à un système capitaliste inonderont l'Ukraine avec du capital. Je ne parle pas de philanthropie, je parle vraiment du fait que si l'on veut reconstruire l'Ukraine, cela peut devenir un phare pour le reste du monde de la puissance capitaliste. » Tout le monde n'a pas la franchise de Larry Fink, ou son cynisme. D'un stand à l'autre, du forum, les participants et participantes ne cessent de répéter qu'il s'agit avant tout d'aider l'Ukraine. Un mur à l'entrée invite à laisser un message de courage au peuple ukrainien. La novlangue de la reconstruction enrobe le tout d'un gloubi-boulga rassurant. Un fabricant américain de pavés proclame que la reconstruction de l'Ukraine est une chance pour un changement positif. Dans la conversation, les collectivités ukrainiennes, à qui l'on cherche à renfourguer pelleteuses et tramouées, ne sont pas des clients, mais des partenaires. D'ailleurs, on ne leur vend pas des produits ou des services, on leur propose des solutions. À bon prix ? Point d'interrogation, silence gêné. Peut-être s'agit-il aussi, dans le fond, de se rassurer collectivement. La guerre lancée par la Russie a bouleversé notre monde, mais tant que ses conséquences entrent dans les cases de business plan quadriennaux, il n'y a pas lieu de paniquer. La guerre invitée ici est la guerre qui se colmate, qui s'arrange, que l'on peut résoudre. Celle des décombres qu'ont des blés, des mines qu'ont des terres et des actives. On fait semblant d'oublier ce qui ne peut être réparé. Personne ne prononce les mots « prisonniers décapités »,« chambres de torture »,« enfants enlevés ». Les vidéos projetées sur les grands écrans et les plaquettes distribuées dans les allées montrent des bombes et des gravats. Et s'il y a quelques images de gens qui pleurent, elles sont suivies de plans de smart city qui vont effacer leur peine. Un océan d'opportunités. Au fond, de l'un des quatre immenses halls où se tient le forum, l'un des clous de l'événement commence, le marathon des communautés. Sur une grande scène façon présentation TEDx, les élus de municipalités ukrainiennes se succèdent et tentent de convaincre en 10 minutes chrono un parterre d'invités internationaux de financer la reconstruction de leur ville. 21 millions d'euros pour un centre de rééducation à Kvigri, 6 millions de dollars pour un lycée du futur à Pokrov, 120 millions d'euros pour un parc industriel à Eneohard, ville occupée où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les édiles se succèdent pour prendre le capitalisme par les sentiments. Ils ont travaillé leurs slogans et leurs diapositives PowerPoint. Et le maire adjoint de Kherson, occupé puis libéré, submergé par les eaux et toujours bombardé quotidiennement, de déclarer « Kherson est la seule ville d'Ukraine entourée de trois mers, la mer Noire, la mer d'Azov et la mer des perspectives. » Applaudissements. Le maire de Mariupol, quasiment rasé lors d'un siège mené par les Russes et occupé depuis, file la métaphore maritime. Mariupol, une ville de bord de mer avec un océan d'opportunités. Applaudissements. Une vidéo sur un projet de centre pour prendre en charge les enfants handicapés de guerre à Odessa, promet, le lieu où commence un avenir heureux, applaudissements encore. Puis, les discussions se poursuivent à quelques mètres dans un espace où chaque ville représentée dispose d'un petit stand à ses couleurs, avec petites tables et plantes en plastique. Sur celui de Barkmouth, le vendeur de canalisation est parti. Le maire adjoint, Marchenko, débriefe son intervention au marathon. « J'ai expliqué que notre plus grand défi, après la libération, serait le déminage », expose-t-il. Résultat, juste après, plus de 10 entreprises spécialisées dans le déminage sont venues nous voir. Donc, j'aurais pas le temps, comme prévu, de tout vous lire, comme d'habitude. Je vous remets le lien sur la page de la poulie sur le site de Radio Primitive. Et puis, je crois qu'on va se laisser là.
Eh ben ouais, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, prenez soin de vous. An excavation, a new fixation. Find location and where it's at. Well, hard to say, to find a way to survive today. No original format, yeah, guilt in storage wars. Future dinosaurs, value village scores. Intro to, and in one instant, you get the measure of this world. Can't return the format, yeah, conurbation. The presence of a second victim, a worldwide thing. They drive away and they drive away. For the big bathroom, but who's stepping out? Who's checking out?